Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en 1027. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain sur les rainettes pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins car sur les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je jouais le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, Calice, ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse ou de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin. Il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, sergé des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir. Je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, nous sommes mardi 4 août. En 1789, c'était l'abolition des privilèges. Alors, pour faire un clin d'œil à cette date, nous avons invité aujourd'hui donc Audrey Millet. Audrey, bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît?
Oui, bonjour. Je suis Audrey Millet, docteur en histoire économique et sociale et spécialiste de l'analyse de l'industrie de la mode, du luxe et d'une manière générale des ouvriers.
Oui, alors on vous invite pour votre excellent ouvrage Bernard Arnault, son univers impitoyable, l'enquête, paru chez La Tribu. Alors, La Tribu a comme éditrice Julia Pavlovitch et elle a donné une interview exclusive le 18 juin dernier au journal L'Humanité pour expliquer qu'avant la parution de cet ouvrage majeur, parce qu'on n'avait pas écrit d'ouvrage sur Bernard Arnault depuis 26 ans, son appartement a été cambriolé.
Oui. Alors, en effet, lorsque la maison d'édition et l'avocat ont envoyé en avril un contradictoire à LVMH, c'est-à-dire que le livre était fini et on envoie 50 questions à LVMH pour qu'il puisse répondre à Bernard Arnault sur certains points, c'est-à-dire que c'est un droit de réponse. nous avons reçu un mail, enfin, la maison d'édition, et qui ne répondait pas évidemment aux questions. Mais quelques semaines plus tard, l'appartement de mon éditrice a été cambriolé. On ne sait pas s'il y a un rapport, bien entendu, mais c'est une pression supplémentaire en réalité pour la sortie d'un livre que Bernard Arnault et LVMH ne souhaitaient pas.
D'accord. Alors, le propos de votre livre, c'est de raconter la manière dont l'homme le plus riche de France a construit son empire avec la complicité de l'État. C'est bien ça ?
C'est bien ça.
Bien. Alors, on va revenir sur la naissance de Bernard Arnault. Ce qu'il y a de bien dans votre ouvrage, c'est que vous racontez que lorsqu'il naît, la France est à terre après la Seconde Guerre mondiale. Et que l'essentiel de la relance est dû aux ouvriers. Ce oui. sont les ouvriers qui encaissent l'effort et portent le poids de la relance. Et ça, vous le décrivez très bien. Je voudrais que vous le décriviez à nos auditeurs. Parce qu'on a du mal à imaginer ce que c'était cette époque pour les ouvriers.
Oui, on est très loin d'un homme qui possède, comme aujourd'hui, un yacht ou des fondations ou des tableaux ou des industries de luxe. Bernard Arnault naît le 5 mars 1949 dans une région industrielle, dans une ville industrielle à Roubaix. Il naît sur un chantier, dans le vacarme du chantier de son grand-père, Étienne Savinel, qui a une entreprise de BTP. Et en 1949, c'est le moment exact où la France se reconstruit. Mais la France se reconstruit la faim au ventre. En mars, il y a toujours des tickets de rationnement. Et la production industrielle française n'est qu'à 38% du niveau d'avant-guerre. La ration de pain, par exemple, est tombée de 300 grammes à 200 grammes par jour. Les ouvriers ont faim, mais ils doivent se retrouver sur les chantiers pour reconstruire ces routes qui ont été lacérées par les bombes, pour reconstruire ces usines pour la relance. Et le plan Marshall, ce plan américain, qui n'est pas vraiment un cadeau, il s'agit de 5 milliards de dollars sur 10 ans mais qui, donnés à la France, mais qui oblige à acheter des produits aux États-Unis, impose un tempo américain. Donc ce n'est pas seulement 5 milliards de dollars. Il impose une modernisation américaine, une manière de faire, c'est-à-dire des machines modernisées, des méthodes tayloristes et une productivité qui en fait est érigée en religion d'État. Qui paye l'addition de cette relance, de cette productivité ? Ce sont les ouvriers. Et dans ce livre, j'ai deux enfants qui sont nés dans la même ville et qui vont grandir en parallèle. J'ai Bernard Arnault, bien entendu, fils de patron des travaux publics, et Paul Détailleur, qui est un fils d'ouvrier que j'ai eu la chance d'interviewer. Ils vivent à quelques centaines de mètres, mais à Roubaix, il y a déjà une cloison étanche entre les riches et les ouvriers pauvres, une cloison qui fait que ces enfants ne se rencontrent jamais. Bernard Arnault apprend le piano sur un piano Pleyel, fait du tennis, pendant que Paul Détailleur, lui, à 17 ans, va faire un CAP d'ajusteur fraiseur, travaillera 52 à 54 heures par semaine et mangera la gamelle que sa maman va lui préparer avec les restes de ce qu'il y avait à la maison. C'est donc une France déjà coupée en deux, une France des riches et une France du travailleur, celui qui va finalement porter la richesse des futurs industriels.
Alors, on va revenir sur la richesse de Bernard Arnault. On va la détailler. C'est 75 maisons, 213 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 86 milliards. Sa fortune personnelle est de 240 milliards,7. J'ai bien tout détaillé ? Audrey ?
J'ai pas entendu la question, Mariama.
Alors, on va revenir sur la richesse de Bernard Arnault.
Oui.
75 maisons, 213 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 86 milliards. Pour une fortune estimée à plus de 240 milliards. C'est bien ça ?
C'est bien ça.
Voilà. Donc, vous commencez votre ouvrage par un prologue éblouissant, l'énumération des hommes les plus riches, des oligarques, qui sont invités à l'intronisation de Trump numéro 2. Et Bernard Arnault fait partie d'eux, et on n'a pas invité Emmanuel Macron.
Oui, l'investiture de Donald Trump est une photo de classe. Une photo de classe des gens qui comptent, des gens qui ont du poids, et des gens qui dirigent le monde, clairement. Finalement, le véritable seul homme politique, si j'ose dire, de cette photo de classe, c'est Donald Trump. Les autres, ce sont par exemple Jeff Bezos, donc d'Amazon, Mark Zuckerberg, de Meta, Elon Musk, SpaceX, Twitter et autres, et Bernard Arnault, le seul Français présent et qui finalement prend la place d'un chef d'État, du président de la République. Ce qui signifie que les hommes qui comptent sont là et que ces présidents de la République qui ne sont pas invités comptent donc moins pour les États-Unis. Et ce sont des hommes qui ont une richesse extrême. Elon Musk vient d'être déclaré de très très loin l'homme le plus riche du monde. C'est absolument irrattrapable, sa fortune. Et ce sont des gens qui dirigent des réseaux sociaux, les réseaux de communication, les réseaux d'information, les réseaux de consommation, et qui en réalité peuvent orienter, et on le sait par Twitter et même Grok, hein, l'intelligence artificielle d'Elon Musk, peuvent orienter, choisir les informations, développer des fake news afin de servir leur intérêt. Alors, quels sont leurs intérêts à ces gens dans cette photo de classe? Ce sont des gens qui cherchent des soutiens politiques, non pas pour le bien du peuple, puisqu'ils n'ont pas été élus, finalement, il n'y a aucune raison, mais des soutiens politiques qui sont destinés à servir leur empire capitaliste. Et tous ces gens-là ne peuvent trouver que néfastes des politiques de gauche, par exemple. Ce serait néfaste pour leurs affaires. Parce que les politiques de gauche sont plus disposées, avec des taxes, avec leur interventionnisme économique et leur régulation, à finalement menacer leur business. Donc ce sont des gens qui se retrouvent sur une estrade autour d'un des présidents les plus puissants du monde, contre la régulation de l'économie, et qui n'ont pas de limites. C'est véritablement l'estrade du néolibéralisme, voire du libertarianisme.
Merci Audrey. Alors, je voudrais qu'on revienne sur Bernard Arnault en tant que tel. On va revenir sur son parcours. Vous avez fait des révélations dans votre livre, notamment sur son parcours à Polytechnique.
Oui. Alors, les archives de Polytechnique sont publiques. Donc, je suis allée comme une chercheuse, comme une historienne. J'ai pris ma carte et j'ai consulté des cartons d'archives que j'ai demandés. Hein. Donc, il ne s'agit pas de rumeurs, ce sont des archives matérielles. Et Polytechnique est une école d'État et est une école militaire. Vous faites votre service militaire à Polytechnique. C'est un concours extrêmement difficile pour y entrer. Il faut être un excellent mathématicien. Mais il y a aussi un très très beau programme en humanité, en sciences humaines et sociales. Et je crois que c'est important de le dire. Parce que tous les gens qui sortent de Polytechnique n'ont pas envie d'être militaire du tout. Il y a un très très beau programme à l'époque et on se rend compte que pendant 2 ans, les notes de Bernard Arnault sont très moyennes. Il est véritablement dans le ventre mou et il étudie que ce qui peut lui servir, que ce qui est utile. La première année, il se rend compte qu'il est mauvais en anglais, donc il travaille énormément l'anglais. Et il devient bon la deuxième année. Mais le plus important, ça a été son stage à l'armée, et notamment à Angers, où le commandant des armées fait un rapport sur ces jeunes qui font leur stage militaire, qui se lèvent tôt le matin au clairon, qui portent leur treillis et qui doivent montrer leur sens du collectif et leur capacité à penser à l'autre, à penser à leurs collègues. Et le commandant des armées explique que Bernard Arnault est inapte au commandement, je cite, et qu'il ne pense pas à ses camarades, qu'il regarde de loin les instructions. Finalement, il esquisse un portrait, nous sommes en 1970-71, d'un homme individualiste qui voulait le diplôme le plus haut qui existe en France, au-dessus de celui de son propre père qui lui avait fait centrale, et qui se défie finalement de l'autorité, qui valide de manière nonchalante son stage, et il finit à la fin vraiment dans les derniers du classement.
C'est un portrait affolant.
Alors c'est un portrait qu'on peut... il s'agit d'un portrait de commandant des armées. On peut se dire que c'est, par exemple, il ne l'aimait pas. Mais en fait, il y a d'autres portraits qui ne sont pas dithyrambiques pour d'autres étudiants à Polytechnique. Et finalement, cet homme, qui a sans doute fait la Seconde Guerre mondiale et qui a l'habitude de faire des manœuvres avec ses hommes, il sait jauger une personnalité. Et ce qui ne correspond pas à la mentalité encore des années 70 et 71 semble correspondre finalement à la mentalité qui va venir et qui appuie, qui soutient la réussite d'un capitaliste, c'est-à-dire une mentalité individuelle, individualiste, quelqu'un qui va penser à son propre profit. C'est véritablement ce qu'on lit. Donc cela ne correspond pas aux années 70, mais ça fera finalement de Bernard Arnault quelqu'un qui va réussir parce qu'il a la mentalité pour le capitalisme triomphant.
Bien. On va revenir sur son premier mariage. Il épouse une femme dont la famille est célèbre dans le Nord et dans la France. C'est Madame de Vavrin. Si je dis colonel Passy, pour ceux qui sont familiers des services secrets français, c'est cette famille-là qui a donné le chef des services secrets français, qui a auprès de Gaulle, construit les services secrets français, le SDEC, l'ancêtre de la DGSE actuelle. Et le colonel Passy, pour ceux qui sont cinéphiles, on le voit jouer son propre rôle de chef du renseignement français à Londres, dans l'excellent film de Jean-Pierre Melville, L'Armée des Ombres.
Oui. Voilà. Il y a une grande blessure chez Bernard Arnault lorsqu'il est dans le Nord. C'est que je vous ai parlé des ouvriers, donc ces familles modestes. Ensuite, il y a Bernard Arnault, une famille riche. Et puis, vous avez les dynasties textiles du Nord, qui peuvent être dans le Nord depuis le XVIe siècle tout de même. Et vous avez ces De Vavrin, ces Prouvaux, ces De Lamotte, qui, elles, sont extrêmement connues, extrêmement respectées, qui embauchent tous ces ouvriers. Et finalement, le père et le grand-père de Bernard Arnault, eux, construisent les usines. Donc ce sont des employés, de manière entrepreneuriale, hein, mais ils travaillent pour eux. Et il y a une souffrance. Bernard Arnault voudrait appartenir à ces familles fameuses, comme on dirait aujourd'hui. Et vous voyez ce décalage avec le colonel Passy, un homme de la résistance. On le voit également dans la propre famille de Bernard Arnault, son oncle, le frère de sa mère, qui s'appelle Marius, est un médecin extrêmement connu et extrêmement respecté dans le nord de la France, qui s'est notamment battu pour sauver les tuberculeux. Et il y a un centre contre la tuberculose qui a été fondé par lui. Et il a été adjoint au maire de Roubaix, qui était un maire de gauche, très à gauche. Et Bernard Arnault aurait pu aussi s'inspirer, suivre cette voie, celle de la résistance de la famille de sa femme, les Passy, celle aussi du socialisme qui était incarné par son oncle et même un peu par son grand-père, qui a fait beaucoup de ristournes dans les années 30 ou durant la Seconde Guerre mondiale à la ville de Roubaix et à Lille pour des travaux. Des ristournes qu'il faisait sur les matériaux et non pas sur les ouvriers, sur le salaire des ouvriers. Mais Bernard Arnault est passé à côté de ceci. C'est un enfant des Trente Glorieuses qui a été, qui a épongé finalement toutes les nouvelles manières de faire, ce qu'on a appelé la modernisation, qui était en fait une mise au travail, une productivité forcée. Et toute cette résistance à des forces étrangères ou tout simplement une résistance à une économie crasse, violente, Bernard Arnault l'a complètement occulté, alors que dans son entourage proche, c'était une possibilité. Il avait les moyens de parler à ces personnages importants, qui avaient un discours important. C'est sans doute d'ailleurs grâce à cause de son oncle Marius qu'il a fait un lycée public. Parce que finalement, son oncle était extrêmement connu et l'ouvrier dont je vous parlais au début, Paul Détailleur, le connaissait très bien et m'a dit, dans les mots, hein, c'était quelqu'un qui donnait de l'espoir, qui allait voir les gens dans les courées et qui vraiment essayait de soigner tout le monde jour et nuit. Bernard Arnault est passé complètement à côté de cette ligne-là et a pris une autre route.
Oui, mais Bernard Arnault, c'est un peu normal. Il était fasciné par Gianni Agnelli, le fondateur de Fiat. Ça, vous le montrez bien dans votre livre.
Oui, alors Bernard Arnault dit qu'il a été fasciné par son grand-père, par son père, mais par le fondateur de Fiat également. Et en fait, ce qui est assez remarquable chez Bernard Arnault, c'est qu'il écrit ceci en 2000, et mais aujourd'hui, il exprime aussi son admiration, je cite, hein, pour Donald Trump, ou son admiration pour Vincent Bolloré. Tout ce qui brille, tout ce qui est grand, tout ce qui n'a pas de limite, tout ce qui permet d'être numéro un, et lorsqu'on est numéro un, c'est évidemment en rachetant et en écrasant les autres, c'est un automatisme à ce niveau-là, le fascine. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de limite. Et si on devait nommer ces hommes-là, c'est vraiment cette certitude de la toute-puissance. Le bonheur, finalement, il est là. Ils ont une famille, ils n'ont pas de problème pour partir en vacances, il n'y a pas de problème d'argent, mais ils en veulent toujours plus. Et l'État ne les a jamais arrêtés.
Et ça, on va le voir avec l'affaire Boussac, entre autres, et d'autres affaires. Mais Audrey, je voudrais qu'on revienne sur son stage chez McKinsey.
Oui. Alors, Bernard, les polytechniciens doivent faire deux types de stages. Un stage qu'on appelle un stage ouvrier et un stage cadre. Ce qui est par ailleurs une bonne technique pour que les élèves connaissent aussi le monde ouvrier. C'est-à-dire que vous pouvez aussi aller dans des entrepôts de la SNCF. Et chez McKinsey, donc ça c'est une boîte de consultants, qui existe toujours. Et vous savez, les années 50-60, c'est vraiment le début du consulting. Ces gens qu'on paye très cher pour analyser pour vous comment faire plus d'argent. En gros, c'est ça.
Oui.
Et chez McKinsey, ils rencontrent Laurent Fabius. C'est-à-dire que c'est un endroit où il faut être. Vous voyez, c'est the place to be, en réalité. C'est lorsque vous faites votre stage au bon endroit, vous pouvez avoir les contacts qu'il faut. Et cette école polytechnique permet d'avoir, bien entendu, les meilleurs stages qui existent. Et il le dit lui-même dans une conférence qu'il a donnée à Polytechnique. Grâce à ce type de stage, il a pu rencontrer Laurent Fabius, donc très tôt, bien avant de négocier avec lui et de discuter avec lui sur des dossiers économiques et industriels.
Bien. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui explique qu'il ait donné 50 millions de dollars pour un campus à son nom à Polytechnique ?
Ah, bah alors, les élèves polytechniciens ne sont pas du tout d'accord. En fait, ça fait quelques années, donc je l'explique dans le livre, que Bernard Arnault voulait racheter le site historique de Polytechnique. Aujourd'hui, l'école Polytechnique est à Massy-Palaiseau, pour une question de place. Parce que dans le centre de Paris, sur la montagne Sainte-Geneviève, le site est un site historique, le jardin est classé, les élèves, vous savez, dorment sur place.
Oui.
Donc il n'y avait plus assez de place. Et ça fait des années qu'il essaie de racheter, d'investir dans Polytechnique. Le premier projet, c'était, nous allons faire de Polytechnique, et notamment, vous voyez, de la cour carrée, c'est-à-dire un jardin, un lieu de rencontre, le top de Paris. Vous voyez, il voulait recouvrir la cour d'une sorte de serre. Ce qui fait que, pendant l'été, vous imaginez, ces vitres en plafond, prendre la chaleur, il faut la clim, et l'hiver, bien entendu, il faut le chauffage, dans ce qui était une cour dont un jardin est classé. Et il voulait créer un amphithéâtre, bon, à son nom de préférence, hein, sachant qu'il y en a déjà un. Mais pour cet amphithéâtre, il fallait aussi accueillir un parking, c'est-à-dire creuser au centre de Paris, sous la montagne Sainte-Geneviève, un parking. Bon, vous voyez un peu les travaux pharaoniques. Et grâce aux élèves de Polytechnique, qui se sont battus à plusieurs associations, ça ne s'est pas passé comme ça. Et là, il vient de donner 50 millions à Polytechnique pour un institut de mathématiques, d'économie, qui portera son nom. C'est-à-dire qu'on a eu des grands mathématiciens dans le monde. On a eu Euler, Poincaré, on a eu des scientifiques qui ont écrit des articles scientifiques, qui ont mis en place des théories valides. Et là, on aurait Bernard Arnault sur un institut de mathématiques. C'est un système, c'est une manière de faire qui est très connue aux États-Unis. C'est-à-dire que ce sont des industriels, des oligarques, qui créent des instituts de mathématiques et qui, de fait, orientent la manière de penser de ces instituts. C'est-à-dire que là, ce serait orienté économie, et tous les types d'économie ne se valent pas et n'ont pas envie de discuter ensemble, bien entendu, et avec un institut qui porterait son nom. Je ne suis pas capable aujourd'hui de vous dire ce qu'a inventé, créé Bernard Arnault comme théorie économique pour le bien commun, pour le bien public. Donc c'est une manière de réécrire son histoire, mais Rockefeller a fait pareil en créant des musées. C'est assez systématique pour redorer son histoire, pour redorer son nom, pour se créer une légende de la part des oligarques.
Alors, ce qu'il y a de formidable dans votre livre, Audrey, c'est que l'homme est nu et que la légende ne tiendra pas. Alors, nous allons faire une pause et nous allons revenir sur son parcours, notamment aux États-Unis.
Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait, que l'on se querelle. L'air lugubre, on s'en allait, en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous ? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère, et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi, ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauve-savate, au canon à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission avec Audrey Millet pour son ouvrage Bernard Arnault, son univers impitoyable, L'Enquête, chez les éditions La Tribu. Alors, 1981, Mitterrand est élu président de la République. Bernard Arnault fuit aux États-Unis, il n'est pas le seul, mais lui, il fuit littéralement aux États-Unis. Pourquoi ?
Alors, lorsque Mitterrand est élu, la droite d'affaires s'imagine déjà que les chars russes arrivent place de la Concorde. Et ça, ça a vraiment été dit à la télé. Bernard Arnault a 32 ans. Et ce n'est pas du tout un exil politique romantique. Il s'éloigne, il laisse l'entreprise de son père, qu'il a reprise à ses deux, à son bras droit et à son bras gauche, Michel Lefebvre pour les finances et Pierre Godet pour le volet juridique. Et lui va essayer de développer l'entreprise, c'est-à-dire d'immobilier aux États-Unis. Finalement, il va connaître surtout des échecs, mais peut-être plus que Polytechnique, ce sera son véritable premier diplôme. Il est à l'école pratique du capitalisme financier de Reagan. Alors, il s'installe à New Rochelle, au nord de New York, dans un quartier qui n'accueille que des super riches. Et d'ailleurs, son voisin direct, c'est John Kludge, qui est le patron de Metromedia. Alors, Metromedia, il faut savoir que John Kludge en a fait une super multinationale et il a transformé 6 millions de dollars en un empire de 4 milliards en rachetant des entreprises en difficulté, ce que fera en partie Bernard Arnault. Et finalement, John Kludge, ce voisin direct, ça devient son mode d'emploi. Il va le reproduire mot à mot avec l'affaire Boussac, puis avec LVMH. Mais ses investissements dans l'immobilier en Floride ne fonctionnent pas du tout. C'est une succession d'échecs. Trois échecs, notamment le projet Princesse, qui est une tour de 19 étages, où les chambres sont trop petites, vous voyez, pour les lits king size, c'est-à-dire qu'il importe une vision européenne d'un art de vivre, mais qui ne correspond pas à celle des Américains. Et ce projet Princesse, cette tour de 19 étages, se situe à 15 km d'une centrale nucléaire. Ce qui signifie qu'il n'analyse pas, lui et son équipe, le terrain. On a aussi le projet Royal Forest, qui est à l'ouest de Palm Beach, celui de Sago Palm également. les pertes sont reconnues. Hein. Mais Bernard Arnault dira toujours « Je ne me suis jamais senti en situation d'échec ». Alors c'est vrai que finalement, étant donné que son voyage, son exil à New York, lui a ramené un carnet d'adresses délirant, qui lui a ouvert toutes les portes en France, parce qu'il y a beaucoup d'exilés français aux États-Unis. Dans un sens, c'est pas un échec, mais techniquement, ces projets-là sont des échecs. Il va rencontrer à New York des relais décisifs, par exemple Claude Gros, qui reçoit des rapports internes sur le dossier Boussac lorsqu'il est à New York. C'est-à-dire qu'il va connaître très rapidement la valeur des actifs et les aides publiques qui seront mobilisables pour la reprise de cette entreprise. Et il est proche de lui. Vous voyez, c'est un petit peu ces expatriés français qui dînent ensemble, qui discutent ensemble, qui partagent leurs connaissances, qui se demandent quand est-ce que la France va se relever de l'arrivée de Mitterrand. Mitterrand va arrêter très très vite d'être un véritable socialiste, hein, dès 83. Et Bernard Arnault ramènera d'Amérique, finalement, pas plus d'argent dans les comptes en banque de la société, mais une technique. Il ramènera une technique, une morale, qu'il écrira dans son livre qu'il a publié en 2000. Cette morale, c'est l'inégalité et le résultat naturel, finalement, du talent. Et moi, je peux le traduire en temps, en une phrase. C'est « Si tu es pauvre, c'est de ta faute, tu n'as pas de talent ». Voilà ce qu'il ramène des États-Unis. Et comme l'avait pressenti le commandant, le général des armées, Bernard Arnault, finalement, revient convaincu de cette religion, de l'entrepreneuriat. Vous voyez, ce sont ces entrepreneurs qui ont la volonté d'action économique chevillée au corps. Il est convaincu que pour sauver la France, que pour sauver l'entreprise, que pour progresser, seul le capitalisme compte.
Oui. Alors, dans les relations, et ça vous le montrez très bien dans votre livre, Audrey, il y a François-Paul de Combray, il y a Michel David Veil, et il y a surtout Antoine Bernheim, le père du capitalisme français. Et ça, ça va servir d'assise à l'affaire Boussac, à la reprise de Boussac, et la banque Lazare.
Les hommes, en fait, ces hommes-là sont des hommes qu'on va rencontrer. J'ai presque envie de vous dire jusqu'à aujourd'hui, parce que Mathieu Pigas est à la banque Lazare, hein,
tout
me
à fait. Oui, tout à fait.
C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression de voir toutes les grandes affaires de la Ve République avec Combray, avec Bernheim, avec David Weiss. Et en réalité, ces hommes-là sont des clés. C'est-à-dire qu'on a, si vous avez les banques avec vous, s'ils signent derrière vous, vous voyez, comme caution, en fait, vous pouvez accéder au plus haut niveau de l'État. Alors, vous avez aussi, ensuite, dans toutes les affaires, vous retrouvez une banque qui a été quand même largement critiquée et qui a été mise dans plusieurs scandales, le Crédit Lyonnais également. En fait, on se rend compte que tous ces personnages, entre guillemets, ont dessiné la France d'aujourd'hui entre eux. C'est-à-dire que ce sont des accords personnels, gagnant-gagnant. Et notamment Antoine Bernheim, qui est véritablement le parrain du capitalisme français, c'est-à-dire que lui, il a aussi aidé Vincent Bolloré. C'était un homme qui connaissait tout le monde. Antoine Bernheim est resté très très proche de Bernard Arnault, et même lui a reproché de ne pas avoir été assez reconnaissant à son égard, parce qu'il lui a vraiment mis le pied à l'étrier. Mais toucher les patrons de la banque Lazare, c'était toucher l'État français et les gros capitaux. Donc il revient des États-Unis avec ce carnet d'adresses, ses nouveaux amis qui sont intéressés comme lui par essentiellement le fait de faire fructifier leur argent, et ils vont ensemble attaquer finalement le tissu industriel français.
Alors, pour la Banque Lazare, je vous conseille de lire ou relire l'excellent ouvrage que lui consacre Martine Orange, oui. Ces messieurs de la Banque Lazare, chez Fayard, à l'époque où Fayard n'appartenait pas à Bolloré.
Oui, c'était la grande époque.
Voilà. Alors, on va revenir au dossier Boussac pour expliquer à quel point la complicité de l'État est nécessaire pour construire une multinationale et comment en a bénéficié Bernard Arnault. Parce que c'est ce qu'on appelle le capitalisme de connivence, Audrey.
Oui. Marcel Boussac est un industriel français né à la fin du 19e siècle. Vous voyez, c'était un vieux monsieur qui avait racheté petit à petit, avait eu des idées dès la Première Guerre mondiale pour l'industrie textile française. Il avait notamment recyclé les toiles de parachute pour en faire des vêtements, et c'est l'influenceur, je dirais, du pyjama dans les années 20-30. Il le met à la mode, il met aussi à la mode les couleurs, vous voyez, dans les vêtements. C'est quelqu'un qui a des idées et qui a des passions, notamment les chevaux, les œuvres d'art, donc il a des haras, et c'est l'homme le plus riche d'Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un capitalisme paternaliste qui est très inspiré du capitalisme protestant du XVIIIe siècle, qui est critiquable, mais qui donnait tout de même aux ouvriers des logements. Donc il possédait les logements des ouvriers et il créait des écoles. Lorsqu'un enfant d'ouvrier naissait, il avait son petit pack Boussac pour sa naissance, avec les premiers babigros, le linge nécessaire pour la naissance d'un enfant, et même les couches peau douce, qui étaient l'équivalent français de Pampers, et qui appartenait à Marcel Boussac. Marcel Boussac a beaucoup d'entreprises, des entreprises d'impression, des entreprises textiles, aussi des entreprises de caoutchouc en France-Afrique, si on peut dire à l'époque.
Oui.
Et là aussi, en 1947, convaincu Christian Dior. Donc il a financé totalement l'entreprise Christian Dior. Et on connaît le succès de Christian Dior. Il a le bon marché également. Il a le jardin d'acclimatation à Paris. Il a des manets. Le problème de Marcel Boussac, c'est que lorsque les délocalisations se font de plus en plus rapides, dans les années 70, il y a moins de commandes, bien entendu, et l'Asie du Sud-Est est déjà là, pour exporter en Europe des vêtements. Et l'État a laissé, en fait, ce type de contrat, c'est-à-dire que la France exportait, par exemple, de l'acier et laissait importer les vêtements ou les textiles d'Asie du Sud-Est. Les entreprises de Marcel Boussac perdent de l'argent. Et la grande erreur de Marcel Boussac, qui n'était pas un capitaliste pur et dur, sinon il aurait fait autrement, c'est qu'il n'avait pas, vous voyez, dissocié ces différentes entreprises. C'est-à-dire que si une tombait, tout le monde tombait. L'argent était dans tous ses œufs étaient dans le même panier. Donc Marcel Boussac est en difficulté, l'État et les banques ne veulent plus lui prêter d'argent. Il faut quand même savoir qu'il a Dior, qu'il a des immeubles avenue Montaigne. Et lorsque les huissiers viennent dans l'entreprise, les biens de Marcel Boussac sont sous-évalués. Ils sont sous-évalués au point qu'il y a eu une fausse signature de Marcel Boussac à une réunion, sauf qu'il a été reconnu que Marcel Boussac n'était pas à cette réunion. Donc les banquiers, les huissiers, se sont arrangés pour sous-estimer son entreprise et Marcel Boussac perd absolument tout d'un coup. Les frères Villot, qui sont des fabricants du nord de la France, pas du tout comme les grandes familles textiles, ils sont quatre. Ils ont par exemple l'usine de pansements, de crêpes, vous voyez, de crêpes, des pansements, rachètent les entreprises de Marcel, le groupe Boussac, beaucoup moins cher que ce que l'entreprise valait. Alors les frères Villot, ce ne sont pas de véritables financiers. Ils partent aux États-Unis, ils décident de racheter une chaîne de magasins. Mais aux États-Unis, on peut pas faire. Quand on fait un prêt, on doit le rembourser immédiatement. Et donc, ils font faillite. Et là, se passe une scène qui a été racontée par Gérard Bellorger, le sous-directeur de Boussac après la faillite des frères Villot, c'est-à-dire sous tutelle de l'État, qui nous a laissé les archives à l'école Sciences Politiques à Paris. Gérard Bellorger nous raconte que la femme d'Antoine Villot demande à la mère de Bernard Arnault, sur le parvis de l'église de Marcq-en-Barœul, est-ce que votre fils aux États-Unis ne pourrait pas nous aider ? Bernard Arnault revient en France. Il est déjà au courant du dossier Boussac. Toute la presse en parle depuis des années. Il revient en France et il signe en novembre un protocole avec les frères Villot. En fait, les frères Villot donnent à Bernard Arnault leurs actions et il les paiera plus tard. C'est une sorte de prêt à la consommation. Et ça, c'est le génie du bras droit de Bernard Arnault, Pierre Godet, qui est décédé en 2008, d'avoir trouvé ce système de prêt à la consommation. Nous sommes en novembre 1984. Ce qui signifie qu'en novembre 1984, grâce à la banque Louis-Dreyfus qui a ouvert le séquestre des actions des frères Villot, encore une banque, en réalité, Bernard Arnault est déjà propriétaire de Boussac. Et en décembre, Laurent Fabius acte Bernard Arnault comme propriétaire, mais en réalité, il l'était déjà. Et il y avait d'autres dossiers de reprise, des repreneurs, et notamment le dossier de Biedermann, qui était un très très grand industriel européen, qui savait ce qu'il faisait, il avait notamment Yves Saint-Laurent à l'époque, et qui a été mis de côté. Mais Bernard Arnault a réussi finalement à récupérer l'Empire Boussac avant les autres et avant même que l'État puisse dire oui ou non. Finalement, Laurent Fabius n'a pu que acter ce prêt à la consommation fait par les frères Villot à Bernard Arnault.
Voilà. Donc, 940 millions de francs, rien par Bernard Arnault au départ, et c'est tout ça, c'est l'argent du contribuable.
Alors, oui, ce sont, en fait, c'est une entreprise qui a été reprise, en fait, on peut dire jusqu'à, c'est 940 millions de francs d'aide publique obtenue sur un plan industriel. C'est-à-dire que les aides publiques à hauteur pratiquement de 1 milliard sont obtenues contre la promesse de consolider l'emploi. Et notamment les entreprises qui fonctionnent. Et Peau Douce, par exemple, l'entreprise de couches pour bébés, était bénéficiaire, mais de très loin. Et puis finalement, on arrive à début 1985, donc vous voyez 15 jours après la signature avec le gouvernement, et on assiste au début des licenciements et des cessions. C'est-à-dire qu'on a 2700 salariés qui sont licenciés. Peau Douce, cette activité bénéficiaire, est revendue 2 milliards de francs en 1987. Le textile ex-Boussac, c'est-à-dire toutes les entreprises textiles, voyez les petites entreprises, ont été cédées à la famille Prouveau, qui fait partie des dynasties textiles du nord de la France, ultra connues, ultra riches. Le textile perd 1000 emplois en 88, 750 en 89, 200 en 91. Mais Prouveau explique que lui n'a pas fait les promesses à l'État que Bernard Arnault a fait. Donc tout le monde se renvoie la balle. Ça n'empêche que il y a eu des sanctions. Parce qu'on n'arrête pas de dire que tout ceci est légal. Mais la Commission européenne, en 1987, a déclaré que les aides qui ont été données à Boussac-Saint-Frère étaient incompatibles avec le marché commun. Et que ça donnait un avantage économique réel de 685 millions de francs à Bernard Arnault. Donc, la Commission a exigé la restitution d'un peu plus de 300 millions de francs. Mais, de fait, cette Commission européenne, elle va sanctionner l'illégalité des aides de l'État français à Bernard Arnault, illégalité des aides qui a permis de fonder un empire. Donc, dès la première grosse transaction de cet empire LVMH, il y a déjà une sanction.
Oui, on ne le dit pas assez. Mais une sanction qui n'entame pas Bernard Arnault.
Pardon ?
Une sanction qui ne l'arrête pas du tout.
Non, il y a une sanction de la Commission européenne, mais l'État, qui est un État de gauche hein, à l'époque, est très heureux de se débarrasser de ces vieilles industries dans lesquelles, j'ai envie de vous dire, la doxa de l'époque ne veut plus croire, c'est-à-dire au travail des gens. Et Bernard Arnault en profite énormément, mais les entreprises ferment à tour de bras à ce moment-là, dans les Vosges, dans le Nord, et des milliers et des milliers de personnes se retrouvent à la recherche d'un emploi. Alors, est-ce qu'ils en ont retrouvé ? Par exemple, dans le Nord, on a quelques emplois qui ont été des gens qui ont été reclassés. Vous voyez, grâce au catalogue de la Redoute. C'est la mode du catalogue de la Redoute. Et ces femmes qui travaillaient, ces hommes dans l'industrie textile, préparaient par exemple les commandes des clients et les colis. Mais en réalité, il n'y a jamais eu de solution. Et quand on voit aujourd'hui le nord de la France, avec ses difficultés encore textiles, on essaie encore d'ailleurs de raviver ce qui a fait la force et la fortune des grandes familles, qui depuis se sont quand même pas mal recyclées. Lorsque je parle de ces grandes familles, je parle aussi des De Wavrin, je parle également des Mulliez. Il n'y a pas que Bernard Arnault. Les Mulliez, c'est Décathlon, c'est Auchan, c'est cette grande distribution. Eh bien, ces ouvriers ont été abandonnés par les entrepreneurs. Ça, c'est une chose. Un entrepreneur pense à son entreprise, essentiellement. Mais ont été abandonnés par l'État. L'État n'a pas été là pour réguler ce type d'achat, c'est-à-dire acheter une entreprise qui est en difficulté et généralement en sous-estimant son prix et ensuite la revendre ou licencier. Puis vous voyez, quand vous fermez une usine, vous démontez les machines et vous les envoyez par exemple en Afrique, en Amérique du Sud. Il n'y a pas de petit profit. Tout est possible au détriment des ouvriers.
Merci Audrey. Nous allons faire une pause et nous allons revenir à la troisième et dernière partie de cette émission.
Elle est née dans le Paris 1790, comme une rose épanouie au jardin des fleurs de lys. Marianne a 5 enfants qu'elle élève de son mieux. Marianne a maintenant quelques rides au coin des yeux. Mais que Marianne était jolie quand elle marche dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. Ça ira, ça ira toute la vie. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle embrassait le cœur de Paris en criant depuis les toits. Il n'y a pas si longtemps que l'on se battait pour elle. On a connu les printemps qui brillaient sous son soleil. Marianne a 5 enfants, 4 fils qu'elle a perdus. Le cinquième à présent qu'elle ne reconnaît plus. Mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. Ça ira, ça ira toute la vie. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle embrasait le cœur de Paris en criant dessus les toits.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, nous sommes dans la dernière partie de notre interview avec Audrey Millet pour son excellent livre « Bernard Arnault, son univers impitoyable, l'enquête » paru chez Tribu. Alors, votre livre a obligé Bernard Arnault à sortir de sa réserve et de son silence médiatique, entre guillemets, et il a dû allumer un certain nombre de contre-feux. Donc, notamment dans Le Monde, par rapport à la série d'articles du Monde, les six articles du Monde, et il a dû donner un communiqué pour à propos du dernier article. On va revenir là-dessus, Audrey, si vous le voulez bien.
Oui, Bernard Arnault a allumé plusieurs contre-feux à la suite de la sortie de mon livre le 10 juin. Le premier a été en fait l'interdiction de mon livre dans les relais chez son ami Vincent Bolloré. C'est-à-dire que le livre a été commandé et il a été renvoyé. Il ne sera pas dans les gares et dans les aéroports. Et une série du Monde vient de sortir. Et Bernard Arnault ne prend pas bien cette série. Elle ne lui plaît pas, ce feuilleton de l'été, parce qu'il a reçu les journalistes en question. Donc il s'est peut-être dit qu'en les recevant, elles allaient être plus...
Malléables.
Ce n'est pas le cas. Finalement, elles écrivent ce qu'elles ont vu. Et ça relève beaucoup de l'anecdote, mais c'est quelqu'un qui, Bernard Arnault, n'arrête pas de dire « ceci ne me touche pas », mais en réalité, tout ce qui le concerne le touche. Enfin, mon livre a été interdit dans les relais, alors je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'il a passé un coup de fil à Vincent Bolloré, mais c'est bizarre. Et là, il a répondu. Alors, il faut savoir que tous ces oligarques, et j'emploie le mot « oligarque », parce que oligarque, en fait, n'est pas une insulte, hein, ça ne concerne pas que les Russes. Hein. C'est une personne qui est très riche et qui fait partie d'un petit groupe qui détient le pouvoir politique et économique.
Oui, ce sont des privilégiés, donc, d'où le 4 août 1789, l'abolition des privilèges.
Voilà, donc ce sont des gens peu nombreux, mais qui ont un commandement. Ces oligarques sont qui ? Et ça, c'est la fin de mon livre, qui, je suis ravie de finir cet entretien sur ça, parce que c'est le plus inquiétant, il faut se tourner vers l'avenir. La scène qui clôt mon livre, c'est le dîner du 7 avril 2026 chez Drouan, cet endroit où on remet le Goncourt, un restaurant. Et autour de la table, vous avez un club patronal. Vous avez Bernard Arnault, Cyril Bolloré, Patrick Pouyanné de Total Energy, Sébastien Bazin d'Accor, et j'en passe. Mais important, vous avez aussi autour de la table Marine Le Pen et Jordan Bardella. C'est la première fois que Marine Le Pen, en avril 2026, rencontre officiellement les oligarques français. Alors, de quoi ont-ils discuté ? Bon, de la baisse des impôts sur les plus hautes fortunes, de l'enterrement de la taxe Zucman, de la fermeture des frontières, de l'ouverture totale aux capitaux. Évidemment, ils n'ont pas discuté de l'évasion fiscale. Et incroyable, le lendemain, le 8 avril, le journal de Bernard Arnault, Paris Match, a mis Bardella en couverture avec son amoureuse, sa princesse. Le lendemain, Bernard Arnault, dans Paris Match, nous vend un conte de fées, un couple présidentiable peut-être, en tout cas, un couple presque royal. Et Bernard Arnault, qui décide absolument de tout, rien n'est fait sans son accord, a décidé le 7 avril et le 8 avril, via Paris Match, de normaliser l'extrême droite. On a Vincent Bolloré dans les médias. On a Bernard Arnault dans les médias. Il faut cesser de dire que ce n'est qu'un empire du luxe. Il a Challenge, Science et Avenir, Les Échos, Le Parisien, Paris Match et La Recherche. On a Rodolphe Sadé dans le transport maritime.
Et il a la Tribune.
Voilà, il y a la Tribune. On a Xavier Niel, hein, qui a une part dans Le Monde, qui est au Nouvel Obs, qui investit beaucoup, qui vient d'investir d'ailleurs dans la société de...
Cyril Hanouna.
De Hanouna, voilà. Et on a, Sterrin, qui s'active depuis la Belgique, depuis son exil fiscal, il le dit, donc je peux le dire, avec son projet Périclès, c'est-à-dire qu'ils ont un but. Et Bolloré poursuit un projet politique. Bernard Arnault, normalement, est en retrait. Il protège des intérêts commerciaux. Mais depuis l'arrivée hier de Bernard Arnault sur Twitter, je crois que les intérêts commerciaux se muent en intérêts politiques. Comme je l'ai dit, ces oligarques cherchent des soutiens politiques destinés à servir leur empire capitaliste. Donc je voudrais vous lire quand même ce tweet de Vincent Bolloré.
Merci. Allez-y, Audrey.
Voilà. Qui félicite Bernard Arnault sur X. Je me réjouis de l'arrivée de Bernard Arnault sur X. Point d'exclamation. Chacun sait sa réussite exceptionnelle qui contribue considérablement à notre pays. Mais il est aussi une personne d'une très grande profondeur et d'un grand cœur. Dans ces moments où la France s'enfonce par une gestion désastreuse, dans de graves difficultés, ses avis seront précieux. Et lorsque je lis ceci, je sens un écho mon livre se termine au restaurant Le Drouan, avec cette chorale d'oligarques qui se congratulent autour d'une table, qui se laissent prendre en photo par les paparazzis sur le trottoir en sortant. Ce tweet, c'est la même partition qui est jouée en public sur un réseau social. Et il montre trois choses. Premièrement, Bolloré adoube Bernard Arnault, c'est-à-dire qu'un baron des médias est en train de couronner un baron du luxe et lui décerne une sorte de magistère politique. Ses avis seront précieux. Bolloré est en train de fabriquer un oracle. Bernard Arnault va nous donner des conseils. Deuxièmement, le vocabulaire de Bolloré, c'est « la France s'enfonce », une gestion désastreuse. Et c'est exactement le vocabulaire de Bernard Arnault depuis 25 ans, qui répète tout le temps « la France freine », « l'Amérique libère », « l'État a trop de frais généraux ». Ce n'est pas du tout un compliment, ce tweet, c'est un programme. Troisièmement, on présente Bolloré et Arnault régulièrement, mais de moins en moins, comme des rivaux. En réalité, ils sont complémentaires. Bolloré ouvre les bras à Bernard Arnault lorsqu'il est en train d'arriver, de s'inscrire sur Twitter, sur le terrain de l'influence. Arnault entre donc sur Twitter, X, qui est un outil de Elon Musk, qu'on voit au premier rang de l'investiture de Trump, et la boucle se ferme. Drouan, X, l'investiture de Trump, c'est le même mouvement qui préfigure en réalité leur arrivée sur le terrain de l'affluence avant les élections présidentielles.
De 2027. Donc, c'est pour ça que on vous a invité, Audrey, parce que votre parole est précieuse, votre travail est remarquable. Alors, il y a des esprits chagrins qui ont fait rappeler que la tribu, la maison d'édition de votre livre appartient au nouveau éditeur et que le rival, entre guillemets, de Bernard Arnault Pinault a des actions dans les nouveaux éditeurs. Donc ça discréditerait tout votre travail. Pas du tout. C'est un travail de profondeur incroyable, d'historienne, de sociologue. Vous avez coché toutes les cases. C'est la raison de notre invitation et c'est la raison pour laquelle nous voulons que les auditeurs comprennent ce qui se joue pour l'année prochaine. Et vous l'avez bien résumé.
Merci beaucoup à vous. Et je crois que justement, au niveau des nouveaux éditeurs, François Pinault est extrêmement minoritaire. Et en fait, ça fait des années que dès que Bernard Arnault a un problème, il dit que c'est François Pinault. À mon avis, je ne le connais pas personnellement, mais François Pinault doit en avoir marre. Et moi, j'en ai marre aussi. Donc, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Et j'espère qu'on regardera ce type de tweet extrêmement inquiétant à l'aune de mai 2027.
Tout à fait. Et c'est le peuple qui gouverne, c'est le peuple qui décide. Donc on verra ce qui se passera en 2027, mais il faut être dans le sens de l'histoire et je ne suis pas persuadée que les oligarques français comme les oligarques du monde soient dans le sens de l'histoire. La révolution, je donne les paroles d'un président qui a subi un bombardement, celui du palais de la Moneda, Allende, et qui a dit ceci en conclusion de son dernier discours, nous sommes le peuple et le peuple vaincra.
On a l'impression aujourd'hui que la démocratie n'a plus de filet, mais le seul filet de la démocratie, ce sont les urnes. Et contre la censure, il n'y a qu'une seule solution, c'est la lecture.
Oui. Votre ouvrage est disponible à Publico.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Oui, alors je disais, votre ouvrage est disponible à Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, qui est le siège de Radio Libertaire. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio Libertaire en podcast, sur radio-libertaire.org. Audrey, je rappelle le titre de votre ouvrage, Bernard Arnault, son univers impitoyable, l'enquête, chez Tribu. et à un prix défiant toute concurrence de 22 €, un peu plus de 22,90 €. C'est une merveille. Merci beaucoup. On va remercier Karim pour la technique et on vous dit à dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et lisez. Merci beaucoup.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interrogez les rues d'un gars sans oublier de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tard, cela peut arriver au prophète, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête.
La rage.
Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse vous de la preuve.
La rage.
C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, Calissi, ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ce qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain.
La rage.
Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse pour de la preuve.
La rage.
Je vous fais serment devant le juge, tu juges ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains.
La rage.
Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité.
La rage.
Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer le futur, l'angoisse vous de la preuve.
La rage.
Pour ne pas retomber dans le trou du néant, l'homme, depuis ce jour, maudit les fainéants. C'est à qui trouvera le marteau, la houlette, l'aiguille à repriser, la poulie, la brouette, le fil à plomb, la scie et le cheval vapeur. L'homme en veut toujours plus, car il a toujours peur. Pour faire son travail, il lui faut des outils. Il crée donc du travail pour faire des outils. La machine au travail en fait plus qu'un outil, d'où le travail machine sur la machine outil. Bon. Un petit repos sur la fin de semaine pour goûter la saveur de la sueur humaine. On prévoit à prévoir l'effet du surmenage. On a des jours fériés pour faire le ménage. la fête du travail, pour qu'on lui rende hommage. Plus que la mort, on craint le péril du chômage. À chacun sa galère, à chacun son goulot, aux ténèbres du temps, à chacun son falot.
La haine croît comme un chien dent. La faune ne coupe que le blé. La moisson promet cet été, le moissonneur incontent. Le fil tranche les épiaux, la récolte est bien entamée, l'eau coule des fronts dégagés, des cheveux sains. Par un bandeau, les murs recouvrent la terre, un tapis d'or jonche le sol, que soupe la main sale et molle, souillera de son savoir-faire, l'habit de monstre accolera, brins et brins pour faire une gerbe, en ignorant la mauvaise herbe, vainqueur qui se redressera, vainqueur qui se redressera. L'amour qui naquit au printemps est assommé comme personne, et sous le fléau qui résonne, il quitte le grain qu'on lui prend. Le naïf montera en meule, puis finira sur le fumier, lui qui se croyait sur son pied, planté comme un croc dans la gueule. Le trahir, le grain aura un destin plus facile. Broyé à l'ancien moulin, il finira farine puis pain dans les champs rasés par les lames. Le blé n'est plus qu'un souvenir pour le chien dent qu'on voit grandir, qui reste seul et qui le clame. Alors à la saison prochaine, on replantera dans ses champs le blé qui masque le chien dent, comme l'amour cache la haine, comme l'amour cache la haine.
Je me souviens de toi dans ces années obscures où tu te promenais avec un rat en laisse. Les cafards te disaient l'amour vient du futur et te laissaient leur croix comme on laisse. Maintenant tu me regardes avec les yeux flétris, bouffé par la machine à plastique et les rêves. Tu me tends ton ticket pour la foire aux zombies et m'invites à trinquer au doomsday qui se lève. Oh love, lové sur ton ventre, le bébé s'ouvre les veines. Oh love, lové sur ton ventre, le bébé s'ouvre les veines. Et tu me demandes s'il a bien pris sa dose. Nous sommes de vieux enfants traînant nos écorchures à travers les décors jolis d'un vieux cartoon. Nous marchons sur Berlin en gobant nos œufs durs et nous sommes à Paris victimes d'un baby-boom. Nous ne sommes que des fantasmes fous d'un computer avec son œil grinçant fouillant dans nos cerveaux. Dans la fluorescence bleutée de son scanner, je regarde l'aiguille s'enfoncer dans ta peau. Le bébé s'ouvre les veines. Oh love, levé sur ton ventre, le bébé s'ouvre les veines. Les mômes de ton quartier se déguisent en mie. Un aigle lentement tourne autour de ta chambre. Les assassins défilent en levant leur képi. Les bébés tombent du lit en lisant. disant Mein Kampf. Love. Oh, love. Hier, je t'aimerai de mon amour taxi. Hier, je t'aimerai de mon amour toxin. Hier, je t'aimerai dans un bar à minuit. Des soirs où la tendresse fait plus bander les chiens.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
C'est comme une maison qui n'existe plus, comme un passé qu'on a chassé à jamais d'une rue. Et voilà qu'un matin, tu ne retrouves rien que les ruines, que les ruines d'un fabuleux amour construit sur tous les jours de toute une vie, de toute une vie. Et comme une maison qui n'existe plus, c'est un jardin de déchirure, c'est comme une brûlure, c'est l'envers du décor, mais c'est plus triste encore, c'est un amour qui s'est perdu. Et moi je suis celui qui trouve une pierre et qui se met à espérer en cherchant l'autre pierre. Au hasard de mon cœur, je découvre une fleur sous les ruines, sous les ruines. Comme un reste d'amour surgit de tous les jours, de toute une vie, de toute une vie. Et devant la maison qui n'existe plus, je fais renaître un pan de mur, je couvre les blessures et je sors de ma nuit et je la reconstruis. Et soudain le miracle est là, j'ouvre les yeux et je te vois.
Donne-moi des claques, allez secoue-moi comme un vieux chiffon. Viens que je te batte à la fenêtre comme un édredon. Et même si on sait qu'elle retombe toujours, faut secouer la poussière, mon amour. Et même si on sait qu'elle retombe toujours, faut secouer la poussière, mon amour. Ça sent renfermer cette histoire. Si nous on n'y croit pas, qui c'est qui va y croire? Et si on donnait un grand coup de pied dans l'oreiller? Et si on balançait nos vieilles querelles à on se faisait la belle. Donne-moi des claques, allez, secoue-moi comme un vieux chiffon. Viens que je te batte à la fenêtre comme un édredon. Et même si on sait qu'elle retombe toujours, faut secouer la poussière, mon amour. Et même si on sait qu'elle retombe toujours, faut secouer la poussière, mon amour. Y'a des moutons sous notre lit, on les a tous comptés, on s'est endormis. Viens, on les emmène en transhumance, on recommence. Allons chercher le génie des alpages, on déménage. Hôtel des oiseaux. Secoue-moi comme un vieux chiffon. Viens que je te batte à la fenêtre comme un édredon. Et même si on sait qu'elle retombe toujours, faut secouer la poussière, mon amour. Et même si on sait qu'elle retombe toujours, faut secouer la poussière, mon amour. C'est dans le placard à balai que dorment les sorcières et les baisers volés. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait les vitres, pas fait les pitres. Si on balançait par la fenêtre la vieille carpette, elle s'envolera peut-être. Donne-moi des claques, allez, secoue-moi comme un vieux chiffon.
Maman était au lit et mon papa au Chili. Mais il n'y resta pas car maman le tapa et papa c'est pas tard. Il lui dit le fait est que nous allons fêter l'enfant que je t'ai fait. Il bute tant de poteaux qu'il bute tant un poteau et tipé le topo. Maman dans le coma, papa dans le moka et moi né comme à co. Tout nous et tout est nu, tout menu et tout nu et tout nu ça nous tue. Car de mon corps pas l'eau, le soleil bouffait la peau sans vous belle peau là. Qui de vos mains de fées cette fête de mes meugrés, ça te le dèche-me. Et je veux rendre à ma façon, grâce à votre graisse amassée, votre sein doux pour le corset, ce que mes vers pour l'âme sont. De tout ce qu'à ma peau me fit, combien fus-je épaté de fois, combien à vous qui m'épatate, mon bon petit cœur confus doit. Absolument pas lié à vos voisins paliers, mais m'entendant piailler. À poil sur la terrasse, en chapeau tête rase, sans que je m'arrêtasse. Enjambant le balcon, un handicap bon, vous traitez dans le salton. Ma mère dans le coma, mon père dans le moka qui me laissait comaco. Sortant je ne sais d'où, un morceau de sein d'où vous massate soudain. Ma peau piètre de vos froides voix sans rire, de vos belles mains et de vos cils. Jolie phalangeoisée que vous m'avez ôté au citron et au michoui. La douleur qui en douce n'avait sauté qu'aux secousses étranges de vos fictions. De tout ce qu'à ma peau me fit, combien fus-je épaté de fois, combien à vous qui m'épatate, mon bon petit cœur confus doit. Et j'ai rendu à ma façon, grâce à votre graisse amassée, votre sein doux pour le corset, ce que mes vers pour l'âme sont.
Mamie jolie, j'aime ben fleur. Mamie jolie, pourquoi tu pleures? Ta petite tête triste entoure mes bras. Ta petite tête triste entoure mes bras. Tu me demandes si je t'aime pour la vie. Pense pas à ça, mamie jolie. Notre amour durera ce qui durera. Notre amour durera ce qui durera.
La vie est courte, mamie jolie, mais l'amour est moins long que la vie. Un jour s'en vient, lendemain s'en va. Un jour s'en vient, lendemain s'en va. J'avons laissé fleurir les roses. Amoureux, j'en sont-ils la cause? Notre amour durera ce qui durera. Notre amour durera ce qui durera. Qui dure jusqu'à 3 années pleines. Qui dure 3 mois, qui dure 3 semaines. Quoi que ça peut faire puisqu'il mourra. Quoi que ça peut faire puisqu'il mourra. Mais avant qu'il meure, ma mignonne, gaspillons pas le temps qu'il nous donne. Notre amour durera ce qui durera. Notre amour durera ce qui durera.
Mamie jolie, ta bouche ma guiche, ta gorge ma folle, viens que je les biche. Sur les foins qui nous tendent le drap, sur les foins qui nous tendent le drap.
Et ne compte pas le temps par année, mais par caresse qu'on sera donné.
Notre amour durera ce qui durera. Notre amour durera ce qui durera.
À l'heure qu'on se désire et qu'on se prend d'amour et que nos cœurs chavirent et que nos corps sont lourds, que nos balbutiements deviennent plus farouches, que je cherche tes seins et le nid de ta bouche. Tu me fais sous les yeux des cernes de velours, tu te fais oisillon et tu te fais vautour, m'amour. À l'heure qu'on s'assoupit et qu'on ne sait plus l'heure, encore mouillé d'amour, encore baigné de sueur, que nos balbutiements sont devenus soupirs et qu'avec ton sommeil commencent mes délires. Tu me fais sur le front de velours, tu te fais chant du coq, tu te fais petit jour, m'amour, m'amour. À l'heure que l'on ressigne sans témoin ni tambour nos prénoms, nos je t'aime sur nos contrats d'amour, que je te recourtise et te refais la cour, et qu'on se remarie un peu plus chaque jour. Tu me fais sur les doigts des alliances de velours, tu te fais Pénélope, tu te fais Pompadour, m'amour.